Dans un premier temps, nous allons donc laisser la parole à madame le docteur Pénilo Valette, qui est praticien hospitalier, qui est neuropédiatre au centre ressources des troubles de l'ouïe et de la parole, excusez-moi, et qui va nous informer sur le repérage, le diagnostic, les signes d'alerte, la cognition et la mémoire. Donc une intervention que je vous propose de suivre.
Eh bien, merci Madame Coletta et merci à nos deux représentantes de la MAIF et de la MGEN pour l'organisation de cette soirée et pour leur invitation. Alors, je vous avoue que je suis un peu émue d'être devant vous parce que j'espère que je vais utiliser suffisamment de mots pour être comprise. Mais en tout cas, si vous ne comprenez pas, vous poserez des questions. Voilà. Je ne sais pas où est-ce qu'il est sur le... Ah ouais, le voilà. Voilà. Alors, moi, j'ai intitulé mon topo « Troubles des apprentissages scolaires, du repérage au diagnostic », plutôt que d'utiliser « troubles 10 », parce qu'en fait, il n'y a pas que les troubles 10, il y a aussi d'autres troubles, on va dire, pour des enfants qui ne sont pas forcément 10, mais qui ont soit des troubles associés, soit des légers déficits intellectuels qui peuvent entrer dans cette catégorie, on va dire. Hein ? Mais voilà. Alors... Pour reparler des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, c'est un problème, je dirais, qui est d'actualité depuis un peu plus de 10 ans, depuis le rapport Ringard, depuis l'année 2000-2001, et depuis la création des centres du langage en 2001-2002. Donc on a repéré par cette enquête épidémiologique qui avait été faite en 2000-2001 par l'Éducation nationale et par le ministère de la Santé qu'environ 10% des enfants scolarisés avaient ce type de troubles, qu'environ la moitié avait des troubles d'acquisition du langage écrit. Un petit pourcentage était resté sans acquisition de la lecture et un petit pourcentage également avec des troubles graves d'acquisition du langage oral. Alors, par qui et comment se fait le repérage ? Alors, par qui ? C'est sur le parcours de l'enfant. Les premiers intervenants auprès de l'enfant, ce sont les parents. Et les parents peuvent consulter pour des troubles qu'ils repèrent parce qu'ils ont des connaissances, des inquiétudes. Ils comparent aux autres enfants de leur entourage ou à leurs propres autres enfants. Les médecins généralistes qui sont amenés à voir les enfants pour les vaccinations, les infections ORL, etc., et qui connaissent bien ces enfants tout au long de leur développement et qui peuvent repérer des troubles du développement, déjà, tout petit. Ensuite, les médecins ORL qui rencontrent ces enfants à l'occasion d'infections des otites, des rhinopharyngites, etc., et qui sont consultés pour étudier l'audition et qui peuvent ensuite imaginer qu'il peut y avoir un trouble de développement du langage, par exemple, qui n'est pas dû à un trouble auditif. Les ophtalmos qui rencontrent beaucoup d'enfants aussi pour des problèmes d'acuité visuelle et donc qui peuvent réorienter sur les consultations spécialisées. Le médecin de PMI a un rôle très important, puisqu'il intervient dans la petite enfance jusqu'à l'âge de 4 ans, qu'il fait théoriquement l'examen des enfants à la maternelle vers 4 ans. Les enseignants, dès qu'ils reçoivent les enfants à l'école, à partir de l'âge de 3 ans, je n'ai pas mis la crèche, mais elle peut aussi être un élément du repérage, le médecin scolaire. J'ai mis des points de suspension parce qu'il y a sûrement plein de... Alors, pour pouvoir repérer quelque chose qui n'est pas normal, les professionnels de santé et les professionnels qui travaillent auprès d'enfants ont la connaissance du développement normal, ou du moins, pas dans tous les détails, mais au moins certains grands repères qui sont très importants. Alors, il y a un repère qui est important, qui est très simple, c'est le carnet de santé, mais qui n'est consultable que par les professionnels de santé, et qui permet de connaître très facilement le développement normal, puisqu'il y a des examens systématiques jusqu'à l'âge de 2 ans, où on peut voir quelles sont les acquisitions requises pour rentrer dans la normalité. Voilà. Il y a d'autres échelles qui existent, alors qui sont réservées plus à des médecins, pédiatres. Alors, je vous ai simplement cité une échelle qui s'appelle Geisel, qui est une échelle très simplifiée et qui permet de définir le développement d'un enfant à un certain moment, à un certain âge, selon 4 axes. Donc, il y a un axe moteur, un axe langagier, un axe cognitif, intellectuel, et un axe autour de la personnalité et des interactions sociales. L'idéal, bien sûr, c'est que le développement soit harmonieux sur ces 4 axes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut repérer avec ce type d'échelle, quand on est pas suffisamment connaisseur du développement, on peut repérer s'il y a un trouble isolé du langage, ou un trouble isolé de la motricité, ou un trouble isolé des interactions sociales, ou un trouble isolé de la cognition, ou au contraire un trouble diffus de tout le développement qui peut correspondre à un retard global. Donc c'est une échelle intéressante et qui permet aussi d'une consultation sur l'autre à réévaluer l'enfant par rapport à la précédente consultation. Voilà, alors, je ne vais pas vous développer tout le développement, mais par exemple à 18 mois, un enfant marche bien, il s'assied seul sur une chaise, il a 10 mots, il jargonne, il est propre le jour, il fait des constructions de 3-4 cubes. Bon, ce sont des repères simples. Voilà, à 4 ans, il saute à cloche-pied, il copie un pont, dessine un bonhomme, il raconte une histoire, il peut compter jusqu'à 4, il peut comparer de longueur, il peut aller aux toilettes tout seul, il joue avec plusieurs enfants, etc. Alors, les motifs de consultation quand les parents amènent leur enfant en consultation, c'est divers et variés. La porte d'entrée est extrêmement variable. Ça peut être un retard de langage, ça peut être un retard d'acquisition de la marche, des difficultés motrices, des difficultés d'acquisition de la lecture quand ils sont plus grands, en orthographe, en mathématiques, une lenteur à l'école, des difficultés scolaires, des mauvais résultats, voire un échec scolaire. Ça peut être aussi des troubles du comportement, des troubles du sommeil ou des troubles somatiques, des douleurs abdominales, etc., lorsque les enfants sont en rupture scolaire, quand ils sont un peu plus grands. Alors, quels sont les repères utilisables pour dépister un trouble du développement qui va induire un trouble des apprentissages scolaires? Eh bien, les signes... Alors ça, c'est dans le cabinet du médecin, il y a des signes cliniques d'appel qu'il faut repérer. Alors c'est tout simple, c'est un enfant qui a des troubles moteurs, c'est un enfant qui a un retard d'éveil dans le regard, le sourire, c'est un enfant qui va avoir des troubles du comportement, qui va être agité, agressif, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, un retard de langage, un échec scolaire, des régressions des acquisitions. Le médecin qui examine l'enfant va avoir aussi quelques repères, tout simples, je dirais. C'est d'abord une croissance anormale du périmètre crânien qui correspond à la croissance du cerveau. Un enfant qui a par exemple une petite tête, il peut avoir une maladie. Voilà. L'examen du corps est très important. Donc on a des repérages, on examine tout ce qu'on peut examiner par la palpation, l'auscultation, etc. Et il y a des éléments qui doivent nous accrocher, qui doivent nous dire, tiens, il y a peut-être des problèmes au niveau de son système nerveux, notamment toutes les taches cutanées, les taches caféolées, les taches achromiques, les angiomes, s'il y a une morphologie particulière, une morphologie qui n'est pas standard, on va dire, un souffle au cœur, un examen neurologique qui n'est pas normal, un défaut de croissance poids et taille aussi doit alerter, surtout s'il est combiné avec d'autres troubles, c'est très important. Alors, il y a aussi deux aspects très importants du développement de l'enfant qui est à prendre en considération, parce qu'un enfant à l'école, il a besoin de ses yeux et de ses oreilles pour entrer dans les apprentissages. Le trouble visuel, il faut le dépister. Le système visuel est un système très immature à la naissance, donc il faut connaître, disons, le développement à peu près normal, clinique. Donc, à la naissance, un enfant cligne à la lumière. À un mois, il fixe les objets fixes à 30 cm. À trois mois, il suit une cible dans quatre directions, une cible en mouvement ou la lumière. Et quand il comprend le langage et qu'il peut désigner ou dire le mot, eh bien, il désigne les objets. Il y a des facteurs de risque qui prédisposent à des troubles visuels. Ce sont les enfants qui sont nés grands prématurés, qui ont été en service de réanimation néonatale, ou des enfants dont les grossesses ont été difficiles avec une infection pendant la grossesse, ou des toxiques, que ce soit des toxiques médicamenteux ou d'autres toxiques comme l'alcool ou des médicaments. Alors, il y a des signes d'appel visuels, déjà tout petits quand ils sont bébés, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont un strabisme, des enfants qui ont des anomalies des yeux, des pupilles, qui ont un torticolis, un enfant qui regarde toujours sur le côté, comme ça, il faut se poser des questions sur son champ visuel et sur la qualité de sa vision. Un enfant qui ne fixe pas, après un mois de vie, les objets fixes. Un enfant qui ne cligne pas de la paupière quand on approche un objet proche de ses yeux. Quand il n'y a pas de poursuite oculaire à 4 mois, c'est pas normal du tout. Un enfant qui a un retard à l'appréhension des objets, ou un enfant qui a un regard qui est complètement errant ou qui plafonne. Ensuite, c'est un enfant, quand il grandit et qu'il acquiert la motricité, c'est un enfant qui se cogne, qui chute, qui grimace, qui plisse les yeux, qui ferme un œil. Donc des signes qui montrent qu'il a un trouble visuel. Ensuite, on peut avoir des enfants qui sont maladroits, des troubles d'acquisition de la motricité, des enfants qui sont gauches, maladroits, pataux, qui ont des retards de langage. Ça peut être associé avec un trouble visuel. Quand ils sont plus grands, c'est l'acquisition de la lecture, c'est des enfants qui vont regarder de très près, ou des enfants qui ont vraiment du mal à apprendre à lire, ou des enfants qui ont mal à la tête, qui ont les yeux rouges, qui se frottent les yeux, qui plissent les paupières, ou qui ont des difficultés scolaires diffuses, pas très systématisables. Voilà. Alors il faut noter que pour ce qui est des troubles visuels, il y a des examens préventifs qui sont faits par les médecins de PMI et par le médecin scolaire. Théoriquement, c'est reporté dans le carnet de santé. Donc en principe, je dirais que la plupart des enfants, je dirais 95% des enfants, ont été repérés, en tout cas entre 3 et 6 ans, quoi. Alors, il y a l'autre aspect sensoriel, c'est l'audition. Il y a des facteurs de risque. Des facteurs de risque, ce sont les antécédents de surdité dans la famille. Là aussi, c'est la prématurité, le séjour en réanimation néonatale, une intoxication pendant la grossesse, des infections pendant la grossesse, la prise de certains antibiotiques, mais ça, c'est de moins en moins fréquent, puisque maintenant, on fait très attention à ça. Des enfants qui ont fait des otites à répétition, des infections ORL, qui ont donc des troubles de l'audition très fluctuants. Les enfants qui ont fait des méningites purulentes ou qui ont eu des traumatismes du crâne qui concernent les lieux où circule le nerf auditif. Alors, les enfants qui ont des troubles auditifs, eh bien, les premiers mois de vie, ils ne réagissent pas beaucoup au bruit, ils réagissent au toucher, ils dorment bien. Ensuite, ce sont des enfants qui ne babillent pas beaucoup ou qui ont un babillage qui régresse. Ils ne réagissent pas à la parole de leur nom. Et ensuite, peu plus tard, quand le langage doit s'installer, il n'y a pas de mots, la communication reste très gestuelle. Ils sont inattentifs, surtout quand ils ne voient pas, la personne qui parle. Un peu plus tard, c'est le retard de parole et de langage, des troubles du comportement, ils sont agités, ça peut être des enfants extrêmement turbulents ou au contraire en retrait. Donc il faut y penser. J'ai vu des enfants adressés pour autisme qui étaient sourds en fait. Après 3 ans, ce sont des enfants qui ont des retards de parole et de langage, là aussi toujours des troubles du comportement et bien sûr des troubles des apprentissages quand ils rentrent à l'école maternelle. Alors il y a des surdités qui sont congénitales, mais il y a aussi des surdités acquises. Et là, ce sont des enfants qui, après avoir acquis un langage plutôt normal en fonction de leur âge, vont avoir une régression de leur langage oral, une détérioration de la parole articulée, des troubles du comportement et également il peut être agressif, avoir des troubles du sommeil nocturne. Alors, je passe maintenant au développement normal du langage. Alors, j'ai fait très simple. Il y a la période prélinguistique des enfants qui est entre 12 et 18 mois, qui commence par l'apprentissage des phonèmes jusqu'à l'âge de 9 mois. Je fais très simple. Oui. J'ai une orthophoniste à côté de moi, j'ai honte.
Vas-y.
Mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, alors c'est ce qu'on appelle les phonèmes simples, le babillage rudimentaire, le babillage canonique. Voilà, j'ai pas de vidéo, mais bon, on n'a pas le temps. Ensuite, c'est l'apprentissage des mots à partir de 10-12 mois et de la construction des phrases. Alors, ça se fait progressivement, de jour en jour, le nombre de mots s'accroît. L'enfant a de la prosodie, c'est-à-dire qu'il utilise le son, c'est musical, il y a les interrogations, les exclamations, etc. Un point important, c'est qu'à 18 mois, globalement, on associe deux mots, qui est le début de la phrase. C'est un petit langage, les phrases sont très simples, il peut y avoir des oublis de lettres, les verbes ne sont pas très bien conjugués, mais c'est du langage. Et alors, à 3 ans, quand ils arrivent à l'école maternelle, ça c'est un point que les parents retiennent bien à l'interrogatoire, même s'ils ne savent pas dire à quel âge il a dit le premier mot, etc. À 3 ans, quand l'enfant arrive à la maternelle, il parle correctement, il sait faire une phrase avec un sujet, un verbe, un complément, plus ou moins un adjectif. Voilà. Et à 4 ans, et il dit « je » à 3 ans, il dit « je », il dit « moi », il utilise des pronoms personnels, « il », »,« elle », »,« nous », etc. Et à 4 ans, c'est vraiment un langage petit adulte, les phrases sont un peu plus complexes, il y a des conjonctions de subordination, voilà. Et il peut comprendre le tour de la prise de parole à 4 ans. Après, il n'y a plus qu'à enrichir le langage, quoi. C'est un langage de petit adulte. La compréhension du langage oral, elle se fait dès tout petit, en fait. Dès tout petit, les enfants sont baignés dans le bain langagier, ils entendent les sons et les mots, donc ils comprennent dès le plus jeune âge. Dès les premiers mois de vie, ils sont capables de comprendre beaucoup de choses. C'est l'apprentissage de la langue maternelle qui se fait dès les premiers jours de vie. Ensuite, entre 2 et 3 ans, ils comprennent plutôt les mots. Hein. Ensuite, il y a, entre 3 et 4 ans, c'est l'aspect syntaxique, donc les phrases. Et à 4-5 ans, c'est le récit. Et ensuite, un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle les capacités pragmatiques du langage, c'est-à-dire que c'est le fait que l'enfant s'adapte à son interlocuteur, qu'il va pouvoir discerner les ambiguïtés, qu'il va pouvoir faire de l'humour, qu'il va repérer les phrases grammaticales ou pas, etc. Qu'il peut faire des jeux de mots. Enfin, c'est vraiment la partie un petit peu plus élaborée du langage. À 3 ans et demi, un enfant, donc ceux qui rentrent à l'école maternelle globalement, ils font des phrases, donc sujet, verbe, complément, avec des articles, des pronoms, des relatives parfois. Ils peuvent raconter une histoire, prononcer presque toutes les consonnes. Il peut y avoir encore des petits défauts sur les cheux, les jeux, mais sans plus. Et à 6 ans, ils comprennent toutes les consignes, ils font certaines erreurs sur certaines formes verbales, mais tous les sons sont acquis. Il peut y avoir encore des déformations de mots complexes et les mots courants ne sont plus simplifiés. Alors, quels sont les signes d'alerte qui nécessitent une évaluation précise avec un bilan orthophonique? C'est l'absence de babillage à 12 mois. On est large. Hein. Pas de pointing. Le pointing, c'est le fait de montrer du doigt à 9-14 mois. Pas de mots isolés à 16 mois. Pas de petites phrases de 2 mots à 24 mois. Pas de phrases de 3 mots à 3 ans. Et puis, toute régression ou perte du langage ou de la socialisation à n'importe quel âge. Alors, les critères de gravité d'un trouble du langage oral à 3 ans, c'est d'un enfant qui n'est absolument pas compréhensible. C'est vraiment préoccupant, où il n'y a aucune structure de phrase et qui a aussi des troubles de compréhension du langage oral. Ça, c'est un critère de gravité, mais je pense que peut-être tu vas en reparler, toi. Je ne sais pas. Non, tu ne vas pas en parler. Alors...
J'essaierai un peu, mais non.
Non, bon, voilà. Alors, je voulais parler aussi du repérage des troubles de la communication, parce que dans la communication, il y a le langage et puis le fait de communiquer. On peut ne pas parler, mais communiquer. Donc, c'est important, parce que là, c'est aussi un aspect très important et qui peut entraver les troubles des apprentissages. Ce sont tous ces enfants qui ont des troubles réels de la communication, troubles du contact visuel, qui n'ont pas de langage gestuel, qui n'ont pas d'intention conjointe, qui n'ont pas de pointing, qui n'ont pas de jeu symbolique, hein, qui ne jouent pas à la poupée, etc., qui n'utilisent pas les objets comme on doit les utiliser, qui ont des troubles du langage avec des répétitions, hein, ils répètent sans arrêt la même chose, ils persévèrent. Et quand ils sont à l'école, eh bien, ils sont isolés sur la cour, ils ne jouent pas avec les autres, ils sont tout seuls. Donc ça, c'est important de repérer ces troubles, parce que là, ce sont des troubles qui s'apparentent plutôt à des troubles autistiques, et ça nécessite aussi une prise en charge. Voilà. De même que les troubles psychoaffectifs, des enfants très angoissés, très déprimés, très inhibés, agités, qui nécessiteront un avis psychologique ou pédopsychiatrique. Une toute petite plaquette sur l'enfant hyperactif, parce que ça aussi c'est très à la mode. J'ai un petit peu de mal avec ce tableau clinique, mais bon. L'enfant hyperactif, c'est un enfant agité, c'est un enfant qui ne tient pas en place, c'est un enfant qui est sur la brèche, c'est un enfant qui veut finir avant d'avoir commencé, qui ne peut pas travailler tout seul, qui n'écoute pas, qui passe du coq à l'âne, qui ne finit pas son travail, qui fait tomber les crayons en permanence, qui se lève, qui gêne les autres. Les autres ne veulent pas jouer avec lui parce qu'il ne respecte aucune règle. Donc c'est un enfant qui est malheureux, hein, et qui est souvent un petit peu rejeté. Alors, l'enfant hyperactif, il faut le repérer parce que, je veux dire, c'est un enfant qui peut avoir des troubles des apprentissages, c'est sûr, spécifiques, non spécifiques, qui peut avoir des troubles psychologiques, psychiatriques, qui peut avoir un retard mental, qui peut avoir toutes sortes de troubles, et ça nécessite vraiment une consultation spécialisée chez le médecin, chez le pédiatre, voilà, pour ensuite réorienter si nécessaire en fonction de ce qui a été trouvé. Voilà, pour l'enfant hyperactif. Alors après, pour aborder les troubles spécifiques, donc les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, on dit qu'ils sont spécifiques parce que normalement, ces enfants-là n'ont aucune anomalie, je dirais, du système nerveux visible, en tout cas, ni par l'examen, ni par les examens cliniques, ni par les examens complémentaires, si on en fait, les IRM, etc. Donc ce sont des enfants qui, en apparence, ont un cerveau normal. Ce sont des enfants qui ne sont pas sourds, enfin, qui n'ont pas de déficience auditive, qui n'ont pas de problème visuel, qui n'ont pas de retard mental, qui n'ont pas de troubles du comportement, qui n'ont pas de troubles de la communication. Ce sont des troubles, en fait, qui sont vraiment développementaux, avec probablement un support structurel, mais qu'on est incapable de mettre en évidence. Et ce sont des enfants qui vivent dans un milieu social et familial qui n'empêche pas leur bon développement. Alors voilà, ça fait beaucoup. En fait, on définit les troubles spécifiques en éliminant tout ce que ça n'est pas. Voilà. Et pour que ce soit un trouble spécifique, il faut que ce soit durable, c'est-à-dire que ça dure, ben ça dure dans le temps, et que ce soit quand même relativement marqué. Voilà. Mais il est vrai qu'on voit beaucoup d'enfants qui ont des troubles dits spécifiques, qui ont quand même un petit peu de troubles neurologiques, qui sont un petit peu prématurés, qui ont été en néonatologie, qui ont eu plein d'otites à répétition, qui sont dans un milieu social pas toujours très, très stimulant, etc., etc. Donc en fait, qui sont un peu agités, qui sont un peu hyperactifs. Donc voilà, donc, le trouble spécifique, c'est la définition. Et puis après, il faut savoir qu'on n'est pas complètement rigide sur la définition. Voilà. Alors, pour vous parler ensuite des dysphasies, les dysphasies, ce sont les troubles de développement du langage oral. Donc ce sont des enfants qui ont des troubles, en général c'est assez sévère, hein, ces troubles dysphasiques, d'ailleurs on dit aussi troubles sévères du langage oral. Il y en a plusieurs types. Pour faire un diagnostic de dysphasie, ça requiert une consultation médicale, le pédiatre, éventuellement le neuropédiatre, un bilan orthophonique normé, ce que j'appelle normé, c'est-à-dire quantifié avec des écarts-types, etc., de la statistique, hein, parce qu'on a besoin de ces statistiques pour pouvoir définir la dysphasie, parce qu'il faut des déviations standards qui soient pathologiques à moins 2 déviations standards, au-delà de moins 2. Et il nous faut un bilan neuropsychologique pour montrer que cet enfant n'a pas de déficit intellectuel, même s'il peut y avoir une différence de points entre les tests qui testent tous les tests verbaux et les tests dits non-verbaux. Donc il peut y avoir un décalage, mais qui est dû aux troubles du langage oral. Alors il y en a plusieurs types, je ne vais pas vous envahir avec ça. Il y en a des plus ou moins sévères. En tout cas, le plus souvent, ce sont des enfants... Enfin, la dysphasie la plus fréquente, c'est la phonologique syntaxique. Ce sont des enfants qui parlent pas beaucoup, qui ont des troubles de compréhension du langage sur les énoncés complexes, donc ils n'ont pas un trouble complet de la compréhension, qui ont du mal à prononcer les sons et à construire les phrases. Voilà. Donc pour eux, c'est compliqué. Et ça, on peut le diagnostiquer avec le bilan orthophonique fait par l'orthophoniste. Hein, ça, c'est la consultation. Le médecin ne peut pas faire le diagnostic tout seul. Hein. Bon, après, il y en a d'autres troubles, les phonologiques qui portent uniquement sur la production des sons. Les réceptives sont plus graves, ce sont celles qui ont des gros troubles de la compréhension. Et là, le pronostic est plus grave parce que, comme on n'entre pas dans la boucle audiophonatoire, on a du mal à les faire progresser, ces enfants-là. Voilà, bon, je ne vais pas parler des autres parce que c'est compliqué. Et puis, elles sont vraiment rares. Oui. Elles sont vraiment rares. Le langage écrit, c'est la dyslexie. Alors, la dyslexie, il n'y en a pas trop des formes. On distingue les dyslexies les enfants dyslexiques qui ont un trouble d'acquisition de la lecture qui porte sur la difficulté à convertir ce qui est écrit en son. Hein. Ce qui est écrit, ce sont les graphèmes, et ce qui est dit, c'est les phonèmes, c'est les sons. Et il y a les assemblées. Hein. Donc, quand on lit, on peut lire « chocolat », on décompose. Ça, c'est la phonologie. Mais on peut lire aussi de manière globale « chocolat », on voit un CH et puis un T, et puis un A, et puis on se dit « c'est chocolat ». Voilà, ça, c'est la lecture globale. C'est une manière de lire globale. Donc, on distingue la dyslexie phonologique, c'est la difficulté à convertir les lettres en son, et la dyslexie de surface, qui est une difficulté à mémoriser et à identifier la forme globale des mots, et donc à recourir plutôt à la lecture en découpant en syllabes, hein, en sons. Voilà, ce qui est très coûteux en énergie, qui est très long et qui empêche parfois de comprendre, parce que quand l'enfant lit aussi lentement, ben, il accède pas au sens parce qu'il dépense trop d'énergie psychique à découper, et du coup il ne retient pas le sens. Alors le plus souvent, ce sont des dyslexies mixtes, c'est-à-dire il y a à la fois des atteintes sur la voie phonologique et des atteintes sur la voie de surface, on va dire.
D'adressage.
Oui, mais je ne l'ai pas défini, donc on va dire de surface. Alors on définit aussi, alors c'est compliqué. La dyslexie phonologique, on dit il n'y a que ce mot-là. La dyslexie surface, on dit aussi dyslexie lexicale, parce que c'est lexique, ce sont les mots. Et puis alors, les orthophonistes, elles utilisent voie d'assemblage, parce que c'est quand on assemble les sons. Et la voie d'adressage, c'est quand on regarde le mot dans la globalité. C'est-à-dire qu'avec l'œil, on a la photographie du mot, on peut le lire. Ça, c'est l'adressage. Alors ça, c'est plutôt des termes utilisés par les orthophonistes. Les neuropsychologues, ils utilisent phonologie lexicale. Voilà. Mais on arrive à se comprendre. On arrive à se comprendre. Voilà, adressage, assemblage. Adressage, assemblage, c'est assez parlant, je trouve.
Pour les enseignants.
Oui, pour les enseignants, voilà. Alors, la dysorthographie, c'est un trouble qu'on voit rarement de manière très isolée quand même. Enfin, nous, tous les enfants qu'on voit, ils ont des dysorthographies associées à des dyslexies. Quand on a du mal à apprendre à lire, ben, on a du mal à écrire, c'est clair. Donc, en fait, le plus souvent, ça découle de la dyslexie. Donc ce sont des enfants qui font beaucoup de fautes avec des erreurs de correspondance entre les phonèmes et les graphèmes, qui font des fautes d'orthographe d'usage et des fautes grammaticales. Voilà, bon, ça c'est tout. La dysgraphie, c'est un trouble persistant du geste graphique qui entraîne une altération de l'écriture telle que l'enfant ne peut pas se relire, que les parents ne peuvent pas relire, les enseignants ne peuvent pas relire, etc. Et donc, ça retentit sur la forme des lettres, leurs liens, le tracé, la mise en page. Bon, les vraies dysgraphies, c'est illisible, exactement. Alors, quand on voit... Alors, il y a des consultations d'enfants qui viennent pour des dysgraphies qui n'en sont pas, c'est-à-dire qu'ils nous montrent... Ils écrivent mal, oui, mais moi, si je suis capable de les lire, je leur dis, non, tu n'es pas dysgraphique. Alors, bon, après, il y a la question de fatigabilité, d'altération de l'écriture au fil du temps sur la page, etc. Bon, on tient compte de tout ça, quand même. Alors, dans les dysgraphies, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est un trouble moteur, c'est-à-dire que l'enfant, il a un trouble vraiment moteur, il a une atteinte du système nerveux, il est maladroit, et il a du mal à écrire. Soit c'est un trouble qui s'inscrit dans un trouble de l'organisation du geste et de l'organisation de l'espace, et on va revoir ça avec les dyspraxies un peu plus loin. Soit c'est un trouble de l'expression graphique qui s'inscrit dans un trouble d'acquisition du langage, de l'écriture et de la lecture. Et à ce moment-là, ça donne des troubles particuliers. Donc devant une dysgraphie, c'est parfois pas facile. Il faut vraiment une vraie consultation médicale qui va faire la différence entre tout ça. Et puis on va avoir besoin parfois à la fois de la psychomotricienne, de l'ergothérapeute, de l'orthophoniste, de la neuropsychologue, etc. C'est parfois pas facile à dégrossir, on va dire, pour bien faire le diagnostic et surtout bien évaluer les difficultés de l'enfant. Parce que derrière la dysgraphie, il peut y avoir d'autres troubles qui sont plus complexes. Bon, ben, les fonctions logico-mathématiques. Les fonctions logico-mathématiques, c'est les troubles qui concernent la construction du nombre, des opérations et tout ce qui concerne le raisonnement et les mathématiques. Voilà, ce sont souvent des enfants qui ont aussi des difficultés d'orientation dans l'espace, de la motricité, de l'attention. Les enfants dyspraxiques ont souvent des troubles logico-mathématiques et on peut les voir associés à des troubles autres tels que les dysphasies ou les dyslexies dysorthographiques. Là aussi, ce sont des troubles qui nécessitent des consultations spécialisées avec des évaluations multidisciplinaires. Les orthophonistes savent faire les évaluations logico-mathématiques et ensuite, on établit les différents troubles présentés par l'enfant. Et on explique un peu comment le faire. Enfin, il y aura de la rééducation, mais aussi des aménagements scolaires. Alors, les aménagements, j'ai décidé de ne pas en parler. Ce n'est pas moi qui en parle, c'est toi. C'est ça. Après, dernier chapitre, c'est la motricité. La motricité, donc, c'est tout ce qui concerne les troubles dyspraxiques. Alors, les troubles dyspraxiques, c'est un champ très complexe aussi. On voit beaucoup d'enfants adressés pour des dyspraxies qui n'en sont pas, dès qu'ils sont un peu maladroits, qu'ils ont eu un retard un petit peu à la marche ou qu'ils ne savent pas, faire leur lacet à 6 ans. À 6 ans, hein. À 6 ans. Alors, c'est 8 ans. Voilà. Donc, on en voit beaucoup qui n'en sont pas. Mais quand il y en a des vrais, là, c'est compliqué. Les concepts sont compliqués aussi. J'ai fait très simple, vraiment très simple. La dyspraxie, c'est un trouble de l'organisation du geste pour une action définie. Par exemple, je veux m'habiller, il faut que je commence par mettre mon pantalon, mettre mes boutons, etc. Alors, ce sont des enfants qui sont incapables de faire ça. Ce sont des enfants qui ont des difficultés dans les activités sportives, ils sont maladroits, ils tombent, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas où ils en sont, etc. Des difficultés dans tout ce qui est activité graphique, écriture, dessin. D'ailleurs, ils n'aiment pas dessiner, ils n'aiment pas les jeux de construction, ils n'aiment pas les Legos. Ils n'aiment pas tout ça. Les dyspraxiques purs, certains ont des différences cognitives très importantes entre les tests verbaux et les tests non-verbaux, à tel point qu'ils ont des QI verbaux très élevés, avec des QI performance très décalés. Et donc, ils investissent le langage à fond, mais du coup, ils n'investissent pas du tout ce qui est motricité, espace, etc. Voilà. Alors, on distingue... Les dyspraxies constructives non visio-spatiales, ce sont ces enfants qui ont tous ces troubles de développement moteur. Donc ça peut être des enfants qui ont des retards d'acquisition à la marche, des troubles d'acquisition du vélo, des troubles d'orientation dans l'espace, des troubles de l'acquisition du temps aussi. Ce sont des enfants qui ne repèrent pas facilement dans le temps, les jours de la semaine, etc. Qui ont des difficultés en raisonnement logico-mathématique quand ils sont un peu plus grands aussi. Donc on distingue les dyspraxies constructives non visio-spatiales, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont améliorés par des modèles et des schémas, c'est-à-dire qui passent par l'œil, mais ils ont quand même ce trouble cognitif de l'organisation du geste. Et puis il y a les visio-spatiales qui, eux, ne sont pas améliorés par le regard. Ce sont des enfants qui ont vraiment des troubles assez marqués, de même que des troubles du regard, alors même qu'ils n'ont pas de troubles de la vision. C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés dans l'organisation de la motricité des globes oculaires. L'enfant a du mal à explorer un espace fixe, à déterminer, à voir plusieurs éléments sur un tableau, à voir une cible, etc. Ce sont des tableaux qu'on voit souvent chez les enfants qui ont été prématurés, qui ont parfois quelques petits signes neurologiques très discrets. Hein. Bon, voilà. Donc les difficultés scolaires, j'en ai parlé. Voilà, grand prématuré enfant IMC, je vous l'ai dit. Alors, le diagnostic des dyspraxies, c'est un diagnostic qui requiert une consultation spécialisée, donc chez le pédiatre ou le neuropédiatre, qui nécessite des examens paracliniques. Quand le diagnostic clinique est suspecté, il faut l'étoffer par des examens paracliniques, qui sont les bilans, les tests neuropsychologiques pour définir la normalité du niveau intellectuel, les bilans en psychomotricité, parce que ces enfants ont des troubles de l'organisation de la motricité et il va souvent falloir une rééducation en psychomotricité, des bilans orthoptique pour justement étudier la qualité du regard, j'en oublie, la psychomotricité, l'ergothérapeute qui va intervenir à un moment aussi de la prise en charge par rapport aux outils qu'on utilise, parce que ce sont des enfants qui ont du mal avec les crayons, avec les rapporteurs, etc., et qui vont un jour passer... compte tenu de leurs troubles du graphisme, le plus souvent que dans les grands dyspraxiques, à l'outil informatique, parfois assez rapidement, même en primaire. Hein. Voilà, donc ça nécessite vraiment des bilans très précis, très sophistiqués, qui sont un peu longs, un peu fastidieux, mais c'est absolument nécessaire pour bien poser le diagnostic, pour bien évaluer, pour ensuite mettre en place les rééducations qu'il faut, hiérarchiser les prises en charge, parce qu'il ne faut pas que l'enfant il ait 14 rééducations dans la semaine, il faut commencer par ce qui est prioritaire, et puis donner les aménagements scolaires aux enseignants, parce que souvent on est tous un peu dépourvus devant ces enfants qui sont intelligents mais qui sont en grande difficulté. Voilà. Il peut y avoir des associations à d'autres troubles comme dyslexie, dysphasie, dyslexie. Il peut y avoir des troubles de la mémoire, des troubles des fonctions exécutives qui sont assez fréquents chez les dyspraxiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne les fonctions frontales, hein. Et puis, il peut y avoir des troubles de l'attention aussi, avec ou sans hyperactivité, qui sont très fréquemment associés aux dyspraxies. Voilà. L'intérêt de ces évaluations, ça permet aussi de dire que c'est un vrai trouble 10 spécifique et non pas un trouble neurologique. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut parfois trouver des petits antécédents. Les prémas, ils ont souvent ce type de tableau. Bon, voilà. Mais on dit quand même que c'est un trouble 10. Voilà. Mais bon, vous voyez, la frontière entre trouble 10 et trouble un peu neurologique, elle est fine. C'est pour ça que, bon, on ne va pas se prendre la tête. Hein, dans les... Voilà. Alors, je vais faire une petite conclusion. Alors, ça, c'est pour savoir à quel professionnel on va s'adresser en fonction des troubles. Alors, vous savez, il y a tout un maillage de systèmes pour les prises en charge des enfants. Des petits, des plus grands, etc., les CAMS, les CMPP, les CMP, le centre référence autiste, pour tous les troubles pédopsychiatriques. Les troubles isolés du langage, il faut un bilan orthophonique. Les suspicions de troubles auditifs, ben, c'est l'ORL. Hein. Les troubles visuels, c'est l'ophtalmo. J'ai oublié de mettre l'orthoptiste pour le trouble du regard. S'il y a un retard mental, un retard moteur, ou des troubles intriqués, il faut un avis pédiatrique, vraiment. Il faut toujours penser à discuter dans ces troubles la place du psychomotricien, hein, s'il y a un petit peu de troubles moteurs, faut pas hésiter, la place de l'ergothérapeute, du kinésithérapeute, de l'orthoptiste. Et quand les troubles sont complexes, graves ou intriqués, là on a vraiment recours au centre expert et aux consultations très spécialisées, et il faut des prises en charge vraiment multidisciplinaires pour ces enfants-là. Voilà, je vous remercie.
Un grand merci, parce que ce fut une vraie synthèse et en plus très compréhensible. Donc merci beaucoup, et dans le temps indiqué. Merci. Voilà.